Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans Gulliver, après avoir voyagé à travers Montpellier, si je puis dire, eh bien nous allons nous diriger dans un autre monde. Et c'est un livre tout à fait passionnant que j'ai le plaisir de vous présenter et de recevoir son auteur, Sylvie Montpoint. Bonjour.
Bonjour Monsieur Vaquier, bonjour à tous.
Alors, ce livre s'appelle « La peau dévoilée » et il y a un sous-titre « La dimension spirituelle de la peau ». Alors je pense qu'il ne faudrait pas que le sous-titre nous engage dans une fausse piste. Et, « La peau dévoilée », c'est d'abord un livre extrêmement savant, qui fait un petit peu c'est une somme sur la peau. Alors la peau en termes biologiques, physiologiques, puis en termes culturels, en termes de sacré, cette peau dont on croit qu'elle n'est qu'un contenant et qui est beaucoup d'autres choses. Et donc, Sylvie Montpoint fait un petit peu une somme. Et c'est assez étonnant parce que c'est une somme à travers un livre qui ne fait pas moins de 200 pages et qui est assez complet quand même sur tous ces aspects de la peau. Alors, elle a une double casquette pour le faire puisqu'elle est dermatologue et qu'en même temps, elle écrit. Alors, d'où vous est venue cette idée, tout à coup, à part le fait que c'est votre métier, mais de vous intéresser à cette peau, mais aller bien au-delà des apparences?
Alors, en fait, depuis une bonne quinzaine d'années, je me suis beaucoup intéressée aux questions larges de la spiritualité, à savoir quels étaient les questionnements essentiels de l'homme, la vie, la mort, la création du monde, dans une lecture qui ne soit pas limitée à une religion, mais qui soit ouverte sur tous les modes de pensée, dans tous les temps et dans tous les mondes. Et cette exploration spirituelle, je me suis dit qu'il serait intéressant de la décliner au travers de l'organe que je travaille tous les jours et qui est la peau.
Alors, c'est une sorte de pèlerinage parce que vous utilisez cette image au début et à la fin du pèlerin qui, à travers son propre épiderme, parcourait cette donc histoire de la peau. C'est une sorte d'histoire de la peau, un petit peu.
C'est cela. C'est-à-dire que le pèlerin, pour moi, est un personnage intéressant parce que c'est un cherchant. C'est quelqu'un qui part en chemin pour se trouver transformé à la fin de son parcours. Le but du parcours n'étant pas le point auquel il arrive, mais toute cette transformation qui va se produire en lui. Et c'est un peu comme un pèlerin que j'ai fait ce travail d'écriture. Je n'ai pas donné d'affirmation, de réponse définitive. J'ai simplement voulu ouvrir des pistes, des questionnements et appeler le lecteur à aller approfondir les domaines qui peuvent l'interpeller, lui créer une ouverture.
Alors, ce qui est assez passionnant, c'est que vous partez du constat immédiat. Alors déjà, vous levez un certain nombre d'ambiguïtés parce que, la peau, dit comme ça ou abordée comme ça de manière un peu immédiate, au fond, on se dit que c'est un contenant, c'est un récipient, c'est important, c'est ce qu'il y a dedans. Et alors là, vous prenez le contre-pied de cette idée qui est banale et qui est un peu bête, un peu simple, et vous montrez à quel point ça n'est pas ça du tout, que c'est au contraire le principal des organes, presque.
Alors, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'est un organe qui, effectivement, n'est pas du tout considéré comme un organe noble habituellement. On va penser au cerveau, on va penser au cœur, on va peut-être penser au foie. Actuellement, il y a une grande mode pour les intestins. Mais la peau, on sait maintenant, de manière très précise, qu'elle n'est pas simplement une enveloppe qui enferme et qui nous protège contre le monde extérieur. C'est certes une barrière, mais c'est une barrière communicante. Et elle laisse passer des messages à double sens, des messages de l'intérieur vers l'extérieur. Par exemple, c'est tout le champ de la psychosomatique. Mais aussi des messages de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est là le domaine d'un mot un peu compliqué qu'on appelle l'épigénétique, mais qui nous explique que les facteurs d'environnement peuvent traverser la peau pour aller au fin fond de nos cellules et faire que l'expression du patrimoine génétique de la molécule d'ADN se fasse différemment. Donc, nous ne sommes pas paramétrés définitivement nous sommes un mélange d'un patrimoine génétique et de facteurs d'environnement, et ceci n'est possible que si la peau est une barrière communicante.
D'ailleurs, vous avez une formule, vous dites que le principal, l'organe qui communique peut-être le plus avec le cerveau, c'est la peau précisément.
Oui, tout à fait, ça aussi c'est le fruit de recherches relativement récentes sur les neuromédiateurs, et l'on sait de plus en plus qu'il y a des messages chimiques qui sont adressés par les récepteurs cutanés au moyen des structures neurologiques et qui vont rejoindre le cerveau. Et donc il y a toute une somme d'informations qui sont en connexion. Et puis d'autre part, il faut savoir que le cerveau et la peau ont une origine embryogénétique. Donc, dans l'embryon, ils sont issus du même feuillet. Mmh. Et donc, cela crée effectivement aussi un lien dans le développement ultérieur de la vie adulte.
C'est passionnant d'ailleurs, cette idée que ce sont les mêmes, oui. la même origine, oui. la peau et le cerveau.
Oui. Oui, oui. La peau est le seul organe à avoir une origine embryologique commune avec le cerveau.
Mmh. Alors donc, c'est... On voit bien là qu'on aborde la peau sous son aspect le plus scientifique, avec donc toutes les avancées que vous signalez, et puis ce qui lève quand même pas mal de stéréotypes que l'on peut avoir, même si on voit à la fin du livre que la peau, c'est aussi un enjeu à la fois culturel et économique. Mais on n'en est pas encore là. Et donc, ensuite, lorsque vous avez fait le tour de cette... De la peau, que vous nous avez démontré que c'est cette espèce de paroi à la fois perméable et imperméable, à la fois protectrice et fermée et ouverte. Là, vous vous engagez dans un cheminement alors, d'histoire culturelle où vous montrez que c'est à travers la peau, au fond, on pourrait presque écrire l'histoire de l'humanité à travers sa peau.
Oui, tout à fait. C'est un peu le mode de réflexion auquel je me suis attachée. En sachant que jusqu'ici, beaucoup de choses avaient été écrites et dites sur la dimension psychologique de la peau. Mm-hmm. La peau qui révèle le fond de l'être, ses souffrances, etc. Mais très peu de choses avaient été dites sur la peau comme moyen de communiquer avec une force supérieure qu'on va appeler les esprits, Dieu, qu'importe, selon l'époque et le lieu de la Terre où on se trouve. Mais c'est toute cette approche-là de la peau comme moyen de communiquer avec la force du monde et l'autre, car l'altérité est aussi une dimension importante dans ce travail, qui m'a préoccupé et qui amène justement sur des pistes de réflexion extrêmement vastes.
Mmh. Alors, et d'ailleurs, c'est cette idée qu'au fond, la peau est réceptive à beaucoup d'informations, qui fait que vous glissez ensuite vers la peau comme... d'ailleurs, vous évoquez la préhistoire... Et la peau comme premier élément de perception du réel qui environne l'homme préhistorique.
C'est ça, les peuples primitifs sont des peuples qui sont totalement immergés dans la nature, qui ne se positionnent pas au-dessus des animaux, au-dessus du monde végétal. C'est un grand tout, l'homme est immergé dans ce grand tout, et qu'est-ce qu'il y a entre son intérieur et ce grand tout ? Il y a sa peau. C'est donc vraiment une peau interface qui va lui servir à ressentir le monde extérieur, mais aussi à exprimer ses messages. Et comme dans ce monde qui est assez hostile et difficile, il y a des forces qu'il ne contrôle pas, il va essayer de les charmer, de communiquer avec elles, en faisant par exemple des peintures corporelles, ou en faisant appel au tatouage, dont on sait qu'il remonte au paléolithique. On a retrouvé des traces très très anciennes. Donc c'est la première chose qu'il va faire, il va tracer sur sa peau des messages à l'attention des esprits de la nature.
Alors c'est ça, c'est, au fond, c'est aussi un instrument de communication.
Absolument.
Alors, à la fin du livre, d'ailleurs, il y a comment on peut appeler ça, une sorte de planning qui nous fait parcourir, là précisément, l'histoire de l'humanité, qui va du paléolithique à l'Antiquité. Et dans cette espèce de panoptique, plutôt, voilà. On va de l'origine de l'homme, donc avec le feu, l'apparition de la sépulture, puis du vêtement, parce que vous abordez aussi le vêtement comme sorte de deuxième peau, comme palliatif à la peau.
Oui, tout à fait. Alors, juste pour revenir sur ce panoptique, effectivement, je l'ai situé parce que moi-même, qui ne suis pas une spécialiste de l'histoire ancienne, on a parfois tendance un petit peu à se perdre dans ces dates. Voilà. Donc, je pensais que pour resituer un petit peu le lecteur, ça pouvait nous rendre service, même s'il y a une petite imperfection dans ce tableau. Alors, les vêtements, oui, c'est très intéressant parce que lorsque j'ai travaillé sur la peau, évidemment, je me suis posé la question de la nudité. Est-ce que finalement le sacré va se situer dans le fait de porter un vêtement spécifique ou est-ce que le sacré va se situer dans le fait de ne pas porter de vêtements ? Et donc j'ai tout un chapitre qui est consacré à cette question extrêmement complexe, bien sûr, et qui va démontrer que les deux démarches se retrouvent.
C'est ambivalent. Hein,
à la fois l'habit sacerdotal, eh bien, c'est bien un message qu'on envoie pour dire « je suis le représentant sur terre du Dieu », on l'envoie aux hommes et puis on l'envoie aussi au ciel, ce message. Mais il y a en même temps les attitudes qui consistent à se dénuder, comme François d'Assise le fit lorsqu'il s'est engagé dans sa voie spirituelle. Il s'est mis nu sur place publique pour démontrer qu'il épousait dame pauvreté et qu'il était dans un détachement total, matériel.
C'est le cas de dire dans le dénuement le plus total.
Ah, le dénuement le plus total, mais un dénuement volontaire. Et on retrouve ça également dans certaines peuplades hindoues, dans le jaïnisme, qui est une tradition religieuse hindoue, où les ascètes se promènent nus avec exactement la même intention, c'est-à-dire de montrer un détachement total des choses matérielles. Et ça me permet d'aborder un point qui m'a beaucoup, beaucoup passionné dans la réalisation de ce travail, c'est que ces questions sont universelles. Elles dépassent bien la forme religieuse. Et on trouve dans des époques très différentes et dans des lieux très différents de la planète les mêmes questionnements, les mêmes attitudes. Le voilement, le dévoilement pour exprimer sa recherche spirituelle.
Alors évidemment, vous parlez de dévoilement et dévoilement et vous évoquez aussi un problème d'actualité qui sans trop d'ailleurs y passer de temps parce que ce n'est pas l'objet de votre livre que de polémiquer. Mais pour revenir à l'histoire du panoptique, ce qui est intéressant, c'est que justement, ça situe donc la sépulture, le vêtement, les tissus, on va y revenir, le tatouage et puis l'apparition de l'écriture. Donc on a vraiment les grandes phases de l'humanisation de l'homme, de l'origine jusqu'à... disons, pas nos jours, mais jusqu'à la période où il nous ressemble beaucoup, au fond.
C'est ça.
Jusqu'à l'écriture.
Et toutes ces grandes étapes ont un lien avec la peau.
Voilà.
Parce que, je ne parlerai pas de l'invention du feu, qui bien sûr a un rôle essentiel par rapport à la peau. Elle réchauffe l'homme, elle permet de faire cuire les aliments, etc. Les sépultures, on sait que de très nombreux rites anciens passent par l'application de pigments, notamment des pigments rouges sur la peau des défunts pour leur permettre de trouver plus facilement le chemin du ciel. Les vêtements, on l'a un tout petit peu évoqué, hein, les vêtements sont très tôt un moyen de communiquer avec les esprits, notamment les tout premiers vêtements qui sont les peaux de bête sont un moyen pour l'homme non seulement de couvrir son corps parce qu'il a froid ou qu'il a besoin de se protéger des agressions de l'environnement, mais aussi de récupérer la force animale qui est dans cette peau. Hein, ça, c'est une démarche extrêmement spirituelle. On retrouve également dans le tissage, c'est-à-dire la fabrication des tissus, là aussi, vous avez un très grand nombre de mythes qui sont basés sur le tissage. Des mythes de création du monde, des mythes de mort et de renaissance, qui sont basés sur le symbolisme du tissage. Donc vous voyez, tout cet amphore qui effectivement ponctue la vie de l'humanité, s'inscrivent sur la peau de l'homme.
C'est ça qui en fait cet universel que vous évoquez. À propos du tissu, vous dites, à un moment donné, vous expliquez que dans le croisement des fils, donc entre la trame et la chaîne, dans le tissage, il y a une symbolique très précise.
Oui, tout à fait. On a retrouvé énormément de mythes dans différentes traditions qui s'appuient sur cette image. En particulier, on en trouve chez les Dogons. On en trouve également en Afrique du Nord. Et ils peuvent articuler notamment la création du monde avec une dimension qui va être une double dimension, qui est bien celle de l'homme, c'est-à-dire une dimension matérielle, la base, sur laquelle l'âme, la vie, le spirituel va venir s'inscrire en tracé, en s'entrelaçant avec cette base. On parle également beaucoup de tissage dans les mythes relatifs à la mort et à la renaissance, hein, avec ce double aspect du tissage, l'inversion du tissu qui va donner l'aspect du vivant et qui cache en fait l'aspect de la mort, mais qu'on peut retourner et qu'on retrouve dans ce mouvement de vie perpétuelle que cherche l'homme, puisque l'un de ses grands questionnements, c'est bien de dépasser la dimension de la mort.
Alors vous abordez aussi la peau telle qu'elle est vécue à travers les grandes religions, à travers les sagesses, alors les trois religions du livre, les sagesses telles que le bouddhisme, etc., y compris même des pratiques que j'avoue avoir découvertes, notamment la question, je crois que c'est les adamites.
Oui.
J'avoue que j'ignorais cette.
Oui, les adamites, c'est une secte du XIIe siècle qui était en Europe du Nord et qui avait décidé de retrouver une vie très proche de la vie du paradis originel. Donc, c'était des gens qui vivaient nus, qui refusaient toutes les structures sociales. Ils étaient contre le mariage, ils ne travaillaient pas. Ils avaient une égalité entre l'homme et la femme, ce qui est quand même symboliquement très intéressant. Et ces adamites ont eu des extensions en France, et notamment à Paris, et on les appelait les turlupins. Et d'où l'expression « ça me turlupine », ça vient de là.
Ah, joli.
C'était les turlupins qui vivaient d'une manière totalement incompréhensible pour le reste de la population. Mais leur nudité, là aussi, était un moyen d'exprimer leur quête spirituelle d'un retour à un dépouillement et à un état de vie originel.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites un sort alors définitif à toute idée de pudeur, d'impudeur. On voit que c'est, en tout cas, c'est pas ça qui guide les gens dans le fait qu'ils se couvrent ou se découvrent. C'est autre chose. C'est une autre logique.
Oui, alors après, il faut toujours...
Après, la religion...
Toujours se méfier des mots, parce que qu'est-ce qu'on met dans le mot pudeur? Mais ceci étant, voilà, le spirituel est au-dessus des codes sociétaux. C'est cela que peut-être vous voulez m'entendre dire, et c'est effectivement ce que j'ai voulu démontrer. C'est-à-dire que l'homme qui est en questionnement spirituel est capable, pour son Dieu, d'aller bien au-delà des codes de la société. Et il faut savoir que les turlupins ont fini d'une manière extrêmement violente sous le joug de l'Inquisition parce que, justement, ils ne respectaient pas les codes sociaux. Donc ça peut aller très loin.
Alors la peau, il y a toute une partie aussi où on apprend à quel point la peau est un lieu de marquage. C'est où le rite applique un certain nombre de marques. Alors, des marques douces, des marques plus dures, comme les scarifications, par exemple. Et à quel point ça a à voir avec l'initiation, à quel point la peau est liée aux différents phénomènes d'initiation.
Alors, je dirais qu'il y a deux questions dans la vôtre. Il y a effectivement les marques de la dévotion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une pratique religieuse, elle peut avoir des conséquences sur la peau. L'exemple le plus simple, c'est les callosités de friction, hein, la corne qui se met sur la peau de celui qui prie à genoux toute la journée. Ça, c'est une marque induite par sa dévotion. Oui. On en aura d'autres qu'on retrouvera chez les pratiquants de jeûne ou d'ascèse qui vont avoir des troubles cutanés, des engelures et des manifestations liées à la pratique de leur dévotion. Mais ce sont des conséquences,
marques. C'est pas cela que
voilà.
Je pensais.
Et la deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir effectivement des marques volontaires ou liées à des pratiques qui consistent à sublimer le corps, à sublimer la matière pour montrer que l'esprit est plus fort. Ça se situe pas tant dans l'initiatique que dans des pratiques religieuses un peu, je dirais, peut-être extrémistes, poussées au bout du bout. On trouve, par exemple, chez certaines peuplades, la pratique qui consiste à mettre une boule de camphre dans la paume de la main et à l'enflammer pour montrer qu'on est... dans une vraie démarche de lien au divin, eh bien, on doit accepter la brûlure. Et même plus que ça, on doit induire une pensée qui empêche la brûlure de se faire. Alors évidemment, ça ne marche pas toujours et on a parfois des conséquences tragiques chez ces gens-là. Donc là, ce sont des pratiques religieuses qui sont poussées à l'extrême et qui abîment le corps. Et on est en droit de se questionner, d'ailleurs, à ce niveau-là, sur la limite à ne pas dépasser. Est-ce que l'on n'est pas dans une forme d'aliénation, dans une forme de conditionnement de l'individu qui va trop loin? Je n'ai pas voulu rentrer dans ce débat, car ce n'est pas l'objet du livre. Mais on sent bien qu'on peut basculer sur des pratiques qui sont complètement excessives. Dans les initiations qui sont très fréquentes, notamment dans l'Antiquité, sur les bassins méditerranéens, la peau est impliquée, mais la peau n'est pas abîmée, entre guillemets. Mmh. Elle est impliquée parce que dans l'initiation, on n'est pas dans une démarche intellectuelle, mais on est dans l'expérience d'un corps. Et donc l'expérience d'un corps, elle va forcément passer par ce qui entoure le corps, donc la peau. Et celui qui doit être initié va d'abord être purifié, donc on va lui demander de jeûner, mais aussi de laver sa peau avec des eaux lustrales, des eaux sacrées. Et puis ensuite, on va lui faire vivre des épreuves, puisque toute initiation est basée sur le principe d'une mort symbolique et d'une renaissance. Donc les épreuves vont le faire mourir quelque part, et on va par exemple le mettre enfermé dans un espace clos pour le purifier par l'épreuve de la terre. Ou alors, on va le faire plonger dans des eaux glacées pour le purifier par l'eau. On va le faire traverser un cercle enflammé pour le faire purifier par le feu. Donc, ces éléments purificateurs, c'est bien sur la peau qu'ils vont aborder l'individu. Mais l'objectif n'est pas voilà, une dégradation du corps, mais simplement une sublimation de l'individu et une mort symbolique qui va lui permettre de se débarrasser de tout ce qui n'est pas l'essentiel, de tout ce qui est contingence matérielle, égo, croyance, conviction, pour aller vers l'essence profonde.
Alors, dans ces pratiques, diverses pratiques initiatiques, vous n'en omettez quasiment aucune, puisque ça va des pratiques classiques, bien établies. Vous abordez la franc-maçonnerie également, donc beaucoup plus spirituelle, etc. Et puis, vous consacrez aussi, évidemment, une partie au tatouage, parce que la peau, c'est aussi un support, une surface à décorer, mais pas que. Et donc, là, vous montrez à quel point le tatouage est une pratique universelle, là aussi.
Oui, tout à fait. Le tatouage est une pratique universelle et qui remonte aux temps les plus reculés et qui dure encore aujourd'hui, puisqu'on en voit énormément. Il y a même une recrudescence des tatouages. Ceci étant dit, il faut faire la part des choses entre, je dirais schématiquement, trois grands types de tatouages. Le tatouage sociétal, celui qui dit la place de l'individu dans la société, qu'on trouve dans les tribus pour dire telle personne fait partie des guerriers ou telle personne est mariée ou n'est pas mariée. Donc tout ce qui est une marque sociétale pour la cohésion du groupe social. Les tatouages à dimension spirituelle, donc qui sont faits pour se relier aux forces supérieures, on en a parlé tout à l'heure chez les peuples primitifs qui vivent et qui veulent se relier aux esprits de la nature par ces tatouages, mais on retrouve également des tatouages dans le christianisme, chez les pèlerins qui vont sur la tombe du Christ, etc. Et puis, troisième type de tatouage, ce qu'on voit émerger actuellement, que j'appellerais des tatouages individuels, des tatouages qui marquent le parcours de vie d'un individu. On n'est plus dans le groupe, on n'est plus dans le spirituel, mais les individus actuellement ont envie de marquer sur leur peau un moment où ils ont quitté quelqu'un, un moment où ils ont décidé de changer leur vie. Et on a beaucoup de tatouages qui sont plus des marques individuelles maintenant, de parcours de vie à dimension psychologique, que des marquages spirituels à proprement parler.
Donc, au fond, le tatouage a changé de statut.
C'est
aujourd'hui.
Ça. Mais assez rapidement, parce que même entre le début de mon exercice médical, il y a une trentaine d'années et actuellement, ce type de tatouage que nous observons n'existait pas. C'était pas, je vais dire, entre guillemets, la petite bourgeoise de 40 ans qui se faisait un tatouage sur le haut de la cuisse. C'était encore des tatouages rebelles, marquant une différence, un refus du groupe. Et maintenant, eh bien, on a ce type de tatouage. Ce qui fait d'ailleurs que la perception du tatouage dans la société est beaucoup moins discriminante qu'avant, puisque des gens, entre guillemets, entendons-nous bien, hein, tout à fait bien, c'est-à-dire des gens qui n'auraient pas été des exclus de la société, se font faire des tatouages et les assument parfaitement. Donc il y a une évolution réelle de la signification des tatouages.
Alors avant de vous poser une dernière question, je suis tombé sur une petite déclaration. Vous dites au tout début, au fond, Dieu était une femme. Et puis, rapidement, les hommes l'ont fait un mâle, disons.
Oui, alors ça, c'est une théorie qui est développée par un certain nombre de personnes qui ont beaucoup travaillé sur la question et qui paraît relativement cohérente dans la mesure où, dans les peuples tout à fait primitifs, on n'avait pas associé la naissance à l'acte sexuel. Donc l'homme n'y était pas pour grand-chose. Et si l'enfant naissait, c'était grâce à la femme. C'est d'ailleurs une époque où les règles, les menstrues, étaient considérées comme un sang de vie. Après, elles vont avoir des connotations très négatives dans les siècles suivants. Mais au départ, elles sont la sève, elles sont l'origine de la vie. Et c'est pourquoi, dans ces époques-là, la déesse, c'était la terre-mère. Ces statuettes dont on a figuré une sur la couverture du livre, de femmes qui ont une toute petite tête, qui ont des hanches extraordinaires et qui sont la terre fertilisante, l'origine du monde. Voilà. Donc effectivement, originellement, il semble que la représentation de la divinité était féminine. Et puis, progressivement, il y a eu une corrélation qui a été établie entre l'acte sexuel et la naissance des enfants. Et les hommes, mâles, se sont réappropriés un petit peu le pouvoir et se sont réappropriés la divinité. Et les femmes sont devenues des parèdres, des accessoires du dieu essentiellement masculin.
Voilà, alors bon, ça m'a amusé ce petit... parce qu'on voit que peut-être de là vient beaucoup de domination, auquel aujourd'hui on est un peu confronté à travers certains éléments d'actualité.
Bref,
alors à la fin du livre, vous ne pouvez pas éviter de revenir au fond à ce qui fait votre métier. Vous dites, la peau aujourd'hui... au fond, on a la sensation en vous lisant que c'est moins riche qu'autrefois, quoi. En termes de cet outil, cet organe qui nous tient, est devenu quelque chose de très superficiel. On n'en prend plus en compte la dimension vraiment d'organe. Vous dites aujourd'hui, il faut avoir une belle peau pour avoir une belle apparence. Au fond, c'est un peu comme si l'aspect culturel s'était un peu affaibli. Et l'aspect superficiel, paraître, et c'était imposé en termes de peau.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est ce que nous avons dit depuis le début de l'histoire des hommes. La peau était un marqueur des grands temps de l'humanité. Et elle est aussi aujourd'hui le marqueur d'une évolution. Nous sommes dans une époque sécularisée, dans une époque qui perd sa dimension spirituelle ou religieuse. Beaucoup de gens pensent que la technique et la raison sont les seuls moyens de conduire au bonheur. Et cela se retrouve sur la peau. Donc, la peau n'a plus à communiquer avec des dieux qui n'existent plus, quelque part. Et qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste deux choses. Il reste d'abord l'apparence, être beau, être séduisant. Et là, il y a des codes, qui peuvent être des codes individuels, mais qui bien souvent sont des codes de société, et qui nous amènent à consommer, car on n'a jamais autant pris soin de notre peau, mais pour... ces arguments-là, pour des arguments de séduction. Et le deuxième grand argument, c'est qu'à partir du moment où on n'a plus de réponse spirituelle au mystère de la mort est angoissante. Et la ride, qui est l'annonce de la mort, est particulièrement rejetée. Et actuellement, nous avons des jeunes femmes qui, à 30 ans, ne supportent pas d'avoir une ridule et nous demandent déjà de faire des liftings, des chirurgies ou du laser pour corriger la moindre ride. Donc, ce n'est pas la ride en elle-même qui n'a finalement qu'une visibilité modérée. C'est ce qu'elle signifie. Et c'est toute cette dimension de non-réponse aux grandes questions de la vie par la dimension spirituelle, puisque la raison ne peut pas répondre à ces questions-là d'une manière satisfaisante, qui fait que l'attitude qu'on a vis-à-vis de notre peau va être une attitude de perfection, sans ride, une lissitude affirmée.
Il faut paraître absolument en bonne santé en plus, absolument. Et la peau en est le témoin.
On rejette la ride, on rejette les vieux. Il ne faut plus avoir l'air vieux. Les vieux doivent être des jeunes. On ne laisse plus les personnes âgées être dans leur état de personnes âgées. La petite grand-mère au chignon et avec les rides, ce n'est pas supportable. Il faut qu'elle soit en jogging, toute lisse, qu'elle court vite et qu'elle voyage.
Voilà. Mais écoutez, on va terminer sur cette dimension d'humour. En tout cas, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est qu'au fond, toutes les angoisses de l'humanité, on les retrouve à travers la peau. Et ça, c'est assez passionnant. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Voilà, je rappelle le titre du livre, « La peau dévoilée, la dimension spirituelle de la peau » de Sylvie Monpoint. Et c'est publié chez Josette Lyon, éditeur. À la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.